Alors, je vous propose de faire un voyage un peu avant l'heure. C'est étonnant de penser que Dieu nous donne des précisions sur quelque chose que nous vivrons après, hein, c'est-à-dire après la mort. Et que ces précisions-là sont suffisantes pour que on en fasse quelque chose. Elles sont suffisantes pour qu'on comprenne quelque chose, et parce que Dieu nous a donné ces précisions-là, alors elles sont certainement nécessaires. Et je dirais qu'elles sont nécessaires parce qu'on en a besoin maintenant. Peut-être que quand on est très jeune, comme vous deux, l'au-delà, c'est... Bon, on a le temps d'y penser, en fait. Mais ça peut venir plus vite que ce qu'on pense, non seulement pour soi, mais aussi pour d'autres qui nous sont proches. Et donc, c'est à nous de comprendre que Dieu nous appelle à avoir le but, à avoir un objectif, de manière à ce que, dans le moment que nous vivons, alors, toutes ces réalités concernant l'au-delà, eh bien, elles nous servent à quelque chose. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette image était intéressante, parce qu'on ne voit rien en fait. C'est l'au-delà bien malin qui pourra dire exactement ce qui va se passer dans l'au-delà ou dans les au-delà, parce que je vais vous en présenter plusieurs. Mais on est appelé à creuser quand même. Par exemple, une expression qui revient souvent dans mes pensées, c'est la parole de Jésus qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Dieu nous appelle à chercher, et à tout âge. Je pense ici que les gens qui sont très âgés, vous nous direz que vous continuez à chercher. On continue à comprendre, on continue à chercher à comprendre en fait. On est tout le temps en réflexion sur nous, dans nos relations, dans les circonstances, dans la connaissance de Dieu. Et on sait quand est-ce qu'on creuse, on sait quand est-ce qu'on cherche, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on trouve. Et je crois qu'il faut être dans cette dynamique de creuser, mais pas de se perdre. Ce n'est pas parce qu'on estime ne pas avoir trouvé que notre recherche n'est pas bonne. Alors, je vous propose un voyage avec, mettons, différentes fenêtres. La première, c'est que puisque Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, alors il ne faut pas dire « j'y pense pas ». Tout le monde y pense, en fait. Et je dirais même que l'éternité, c'est ce qui donne du sens à notre vie. L'Ecclésiaste, par exemple, est le livre qui dit « Mais de toute façon, rien n'a du sens parce que quand on meurt, les choses s'arrêtent. Donc, ce qu'on va avoir de la peine à construire, puisque ça s'arrête, ça n'a pas de sens. » Mais si, ça a du sens parce que ça ne s'arrête pas, justement. Parce qu'il y a un au-delà. Et on y pense. Tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main. Donc Dieu, bien sûr c'est une image, mais ça veut dire que les jeunes hein, qui sont devant, la vie est courte en fait. Hein, moi j'ai eu 59 ans au mois de mai, et quand je suis venu ici, les gens, Hélène Saï par exemple, qui m'a accueilli, bien, j'étais un gamin. Hein, j'étais pas loin de j'avais une vingtaine d'années. Mais la vie est courte, en fait. On a l'impression que les choses se sont passées assez rapidement. La vie est courte, mais quand on la regarde étant jeune, pouf, elle est très longue. Mais la vie de l'homme, elle est aussi difficile. Et pourquoi? Eh bien, je crois que, d'abord, c'est parce que, comme je dis souvent moi-même, tout ce qui a de la valeur coûte. Donc, quand on vous fait un cadeau qui ne coûte rien... Ben, c'est que le cadeau, il ne vaut rien, en fait. Hein? Tout ce qui a de la valeur coûte. C'est difficile. Mais ce qui est difficile, c'est que ben, on ne sait pas grand-chose sur l'au-delà. Du coup, souvent, on peut s'inquiéter, on peut... ma tante Marthe, qui est à Sainte-Victoire, m'a dit il y a 15 jours, « Mais comment ça va se passer quand je vais rencontrer Dieu ?» On s'inquiète sur l'au-delà. Hein, et quand la rencontre se fait plus proche, plus précise, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, on a lu le verset dans Jean 4 qui dit « Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, alors nous savons que Dieu nous aime. » Et donc, il faut comprendre que l'amour accompli, l'amour complet, chasse la crainte. Quand je vais rencontrer Dieu, je vais comprendre à quel point il m'a aimé et il m'aime. Donc, j'ai de l'assurance au jour du jugement. Mais le jour du jugement, c'est un des aspects de l'au-delà. Et du coup, comme aujourd'hui, la question du jugement, de la justice, c'est complexe, c'est difficile. Galates 5, verset 6 nous dit « Nous attendons l'espérance de la justice ». C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre, ce matin on a lu avec grâce à plusieurs, qu'on a été lavé dans le sang de Jésus-Christ, oui. Mais qui est-ce qui peut vraiment en être complètement propriétaire de ça? C'est très difficile. Hein, de se dire, oui, vraiment, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ça, ça a été expié? C'est très difficile, c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, quand on verra Jésus, alors ça sera définitivement simple. Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, la vie, elle est courte, elle est difficile. Pour quel but? Il me semble que c'est parce que c'est en cherchant, c'est en se posant des questions, c'est en réfléchissant, creuser mais pas se perdre, que nous nous approprions vraiment ce que Dieu veut que nous ayons. Alors, Asaph dit dans le psaume 73, concernant les méchants, qu'ils prospèrent dans le monde, et ça lui pose problème. Et donc, la question de Asaph, en fait ici, c'est comment est-ce que l'injustice sera réparée? Et donc, il y a des réponses, mais ces réponses sont le plus souvent dans l'au-delà. Il y aura une réparation, alors je ne vais pas anticiper, on va voir ça, hein, mais quelque part, si vous êtes au collège et qu'il y a des injustices qui sont faites, si vous savez que Dieu s'occupe de toutes les injustices qui sont faites, ça change tout. Parce que vous n'avez pas envie de vous venger, en fait. Vous pouvez dire, il y a une injustice qui est faite. Pourquoi est-ce que tu me méprises, tu me frappes, tu m'attends à la sortie, etc. Mais vous pouvez le dire aux professeurs, aux surveillants, etc. Mais quelque part, Dieu s'engage dans la réparation des injustices. Ça, c'est très important. Alors, 1 Thessaloniciens 3, 14, je n'ai pas mis tous les versets sur les diapos, nous dit que quand le Christ reviendra pour son avènement, il reviendra avec tous les saints, S-I-N-T-S, tous les enfants de Dieu. Donc, tout le monde sera là, en fait. Et il y aura un moment fantastique où mes grands-parents que je n'ai pas connus, voilà, on va revoir, en fait. On va revoir des gens. Et on aspire à, par exemple, la lignée familiale, c'est quelque chose de très intéressant. Hein, voir le devenir familial, voir aussi le sens de ce que Dieu a voulu donner en créant la famille et en créant ces lignées. Les peines éternelles, l'enfer, comment est-ce qu'on peut en parler? Voilà une autre chose qui touche à l'au-delà. Et on a tous entendu parler des images d'Épinal, c'est-à-dire de ces images qui donnent un présupposé mais qui le plus souvent n'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que l'enfer, en fait? Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que pensent les chrétiens de l'enfer est une chose qui repousse les non-chrétiens. Ils se disent, mais oui, mais en enfer, de toute façon, les démons vont nous piquer avec des fourches. Et donc, comment voulez-vous que je croie en un Dieu qui permette ça? Et oui, mais ces images d'Épinal, il faut les détruire, en fait. Il faut nous-mêmes avoir une compréhension poser et juste des choses pour qu'on puisse parler de l'enfer et dire ce que pourrait être l'enfer, en tout cas ce qu'on en comprend dans la Bible. Alors, encore un point différent sur l'au-delà, nous serons semblables à Jésus. Ha ! Déjà, être semblable à Jésus, c'est fantastique. Oui, mais comment est-ce qu'on sera ? Hein ? Semblable à Jésus, mais dans quel sens ? Et donc, on va creuser les choses qui touchent à la résurrection. Et je voudrais dire avec tout cela que l'au-delà, oui, est au centre de la plupart de nos questions ou de nos problèmes. Mais On se dit, ouais, mais c'est tellement compliqué. Il y a tellement de gens qui disent des pensées tellement différentes que est-ce que ça vaut vraiment la peine de se poser la question de chercher à comprendre quelque chose, puisque de toute façon, il y a des pensées tellement différentes, donc on entend et puis on n'en fait rien. Mais je crois qu'au contraire, la vie d'Église, c'est de réfléchir ensemble pour que ce qui est juste ressorte. Et ce qui est juste, ça nous fait du bien, ça nous construit. Alors, un beau voyage qui touche à nos problèmes. Par exemple, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ou bien, ah ouais, mais si vous saviez, dans ma famille, dans mon travail, mes voisins, etc., je suis stressé et je n'y peux rien, c'est comme ça. Ah, mais pourquoi on est stressé en fait? Hein, qu'est-ce que c'est que le stress? Hein, il me semble que, alors, il pourrait y avoir différentes définitions, mais en tout cas, dire je n'ai pas le temps, c'est un mensonge. Il ne faut jamais dire j'ai pas le temps, il faudrait dire je ne prends pas le temps. Puisque le temps, on choisit de l'utiliser comme on veut, en fait. Mais la question du temps, elle est complexe, parce qu'en fait, on se dit, ben voilà, la vie est courte, donc voilà mes priorités. Mais si je fais mes priorités sans la question de l'éternité, sans la question des au-delà, alors je pourrais dire j'ai pas le temps. Et du coup, si je dis j'ai pas le temps, je ne vais pas dire je suis stressé, je devrais dire je me stresse. Et Jésus dit à la fin de Matthieu 11, venez à vous, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on dit j'ai pas vu le temps passer, quand on a l'impression que notre vie nous échappe, quand on regarde en arrière et qu'on se dit, mais quel chantier, quelle misère, en fait, et qu'on s'inquiète sur le moment où on rencontrera Dieu. Là aussi, la vision de l'au-delà va déterminer si on est inquiet ou pas. J'ai des colères profondes. La colère, c'est l'état d'âme qui est lié à un manque de justice, en fait. Je suis en colère contre quelqu'un, parce que je n'ai jamais vu qu'on puisse être en colère contre quelque chose. Vous êtes d'accord? Ne peut pas être en colère contre quelque chose. Hein? On est en colère contre quelqu'un. Et donc, ma colère n'aboutit pas parce qu'en fait, j'arrive pas à la faire aboutir. Je ne sais pas comment la faire aboutir. Injustice est faite, oui, mais si je comprenais que Dieu rend justice, et si je comprenais quelle est ma place dans la colère, alors elle pourrait aboutir. Je n'ai pas dirigé mon deuil. Si je réalise à quel point Dieu aime tout le monde, à quel point tout le monde a de la valeur pour Dieu, à quel point toute personne a sa place dans l'œuvre de Dieu, quand quelqu'un disparaît, nous quitte, quand quelqu'un meurt, eh bien cette personne-là reste dans sa place, en fait. Chacun a sa place et il y a des événements qui font que nous souffrons de la disparition, mais quelque part nous savons aussi que cette disparition, elle a du sens. Un psaume dit, précieuse ô Éternel est la mort de tes saints, de tes enfants. Je n'arrive pas à penser, certains me disent que quelqu'un puisse aller en enfer. Donc quelque chose est insatisfait pour eux. Ils sont insatisfaits. Quelque chose est mal fait. Bon, ça mérite qu'on se penche sur la question de l'au-delà. Vivement que je sois débarrassé de mon corps, parce que quelque part, je peux dire, j'ai honte de mon corps et j'attends ce moment où mon corps sera changé. Hein? Mais peut-être qu'on peut se dire aussi, le corps est le lieu du péché. Je l'ai entendu dans la bouche de certains, c'est pas mon avis, hein? Mon corps est le lieu du péché, et vivement que je sois débarrassé de mon corps. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Nous aurons des corps glorifiés, semblables à celui de Jésus. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé, Donc mes fautes sont expiées, ça sera bien après. Oui, mais Dieu nous appelle à ce que ce soit bien maintenant. Donc comprendre comment ce qui va se passer après me permet maintenant d'être bien. Donc voilà des choses qui touchent à l'au-delà, mais qui sont des problèmes de maintenant et qui font que ce sujet est important pour nous. Je vous propose donc un plan, comprendre ce que sont les au-delà, hein, il y en a plusieurs, comprendre ce qui peut nous empêcher de réfléchir et puis comprendre en quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour nous. Alors ce plan, vous le verrez en haut et à droite dans les diapos. D'abord, l'au-delà, c'est l'aboutissement de notre existence. Quand je dis aboutissement, c'est que ça y est, c'est complet en fait. Aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie. Aujourd'hui, dans le cadre de ce que Dieu nous a révélé, en fait, il ne nous a pas tout révélé, Dieu. Mais il nous a révélé suffisamment. Oui, mais après, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Après, ça sera complet. Maintenant, ce n'est pas complet. Hein, donc, il y a un premier aboutissement de cette complétude, connaître. Un deuxième sens de l'au-delà, c'est que on retrouve Dieu personnellement. Dans le premier sens, c'est plutôt finalement ce que nous comprenons, ou nous connaissons, nous savons, sera complet. Mais là, c'est vraiment être avec Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Et là, il s'agit de la mort, hein, du passage vers le séjour des morts par la mort. Et donc là, l'esprit retourne à Dieu. Donc il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que notre relation avec Dieu, elle sera complète. Alors l'au-delà, c'est aussi un lieu, un endroit. Il est où le séjour des morts? Difficile de répondre. Pour moi, il est dans le monde invisible qui est là, en fait. Hein, je ne pense pas que la Bible dise que les morts sont loin. Les morts sont dans le monde invisible, comme Jésus a quitté la scène terrestre et est aussi dans le monde invisible. Alors, il y a un au-delà temporaire. C'est-à-dire que le règne du Christ se fera après l'enlèvement de l'Église, après la grande tribulation, et dans une période qui est définie. 1000 ans, mais elle est définie. Donc, il y a un au-delà qui sera temporaire. Et donc, cet au-delà, il est différent du séjour des morts. Hein? Un premier au-delà, c'est le séjour des morts. Un deuxième au-delà, c'est par exemple ce règne de 1000 ans. Et un troisième au-delà, c'est l'état éternel. Et dans ces réalités différentes, il y aura des réalités différentes. Dans ces domaines différents, il y aura des réalités différentes. L'au-delà est un lieu de justice. Hein, nous attendons de nouveaux cieux, de nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. Aujourd'hui, tout est injuste. Donc, enfin, tout est injuste, non. Mais quand c'est injuste, ce n'est pas anormal. Il y aura vraiment un règne de justice quand le Christ règnera. L'au-delà sont des lieux différents où on accède par des passages différents et par des passages. Hein, on accède au séjour des morts par la mort. On accède à ce moment court dans lequel nous quitterons ce que j'appelle la scène matérielle par l'enlèvement de l'Église, et on accède à la glorification du corps par la venue de Jésus pour prendre les siens. Les morts ressusciteront et les vivants seront changés. On accède au tribunal du Christ aussi par la venue de Jésus. On verra ça plus en détail. Alors, comment classer un peu tous ces au-delà? Alors voilà un premier au-delà qui est l'enfer, ici. Et c'est intéressant de voir que dans les paroles de Jésus dans l'Évangile, l'enfer, les peines éternelles, le feu inextinguible revient extrêmement souvent. Quand des gens me disent, en tant que chrétien, je ne crois pas à l'enfer, je dis, mais il faut au moins lire l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais dans cette bonne nouvelle, il y a la nouvelle de l'enfer. comment classer tout ça à l'état éternel? Hein, par exemple, quand on dit « Est-ce que tu iras au paradis ou en enfer, Jean-Étienne ?» On a raison? Alors il dit non, il a senti le piège. Parce que le paradis, il existe maintenant. Mais l'enfer, il existera après le jugement dernier, quand les gens iront en enfer. Aujourd'hui, il y a le séjour des morts malheureux. Et il ne faut pas confondre le séjour des morts malheureux, où l'esprit, les esprits attendent la résurrection, et l'enfer qui est un état définitif pour l'éternité. Alors vous me direz, oui, mais quelles conséquences? Les conséquences, c'est quand même de faire des différences dans ce qui est dit dans la Bible, et de dire, aller au paradis, c'est quelque chose d'immédiat. Hein? Quand on a mis mon père dans la tombe, alors on a dit ensemble, il est au paradis. Hein? Mais quelque part, avant que l'enfer survienne, il y aura des jugements, il y aura des actions de Dieu qui viendront, et ça nous permet peut-être de prévenir les gens. Parce que justement, il y aura un jugement dernier. Ce règne de 1000 ans, le Christ Jésus va juger les vivants et les morts, il faudra qu'on l'explique, au moment de son apparition et de son règne. Donc il y aura un jugement pendant son règne. Et ce jugement-là concernera les vivants et les morts, qui sont ces gens-là. Donc, il faut déjà voir les au-delà et leur époque, et après, il faudra comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La grande tribulation, c'est les paroles de Jésus, il y aura une grande tribulation. Ce moment de désespérance, hein, on va aussi en parler. Sheol, qu'est-ce que ça veut dire? Paradis. Et c'est l'enlèvement de l'Église. Et donc, l'enlèvement de l'Église, nous irons à sa rencontre dans les airs. JD, ce n'est pas le journal du dimanche, c'est le jugement dernier. Et donc, essayons de mettre tout ça en ordre. Ici, il y a aujourd'hui, pour ceux qui passent par la mort, il y a un passage vers le paradis, qui est le séjour des morts bienheureux, ou vers le Sheol, qui est le séjour des morts malheureux. Et on sait, par exemple, avec Luc XVI, qu'il y a quelqu'un qui était au séjour des morts malheureux et qui a dit à Abraham, « Écoute, envoie quelqu'un pour les avertir. » Et Abraham dit, « Non, non, ils ont la loi et les prophètes, ils ont Moïse, ils n'ont qu'à écouter. » Donc, on voit que dans le séjour des morts malheureux, les choses sont établies. On ne peut plus changer après. Quand on est dans le séjour des morts malheureux, c'est fixé. Quand on est au paradis, c'est fixé. Mais les choses sont fixées avant la mort, par notre choix. C'est quoi votre choix? C'est quoi notre choix? Après, il y a un autre passage qui est l'enlèvement de l'Église. Il y a un moment incroyable où il y aura une trompette. Alors, pour ceux qui aiment la trompette, je crois que Pierre, tu joues la trompette, mais il y en a peut-être d'autres. Mais je veux dire que quand la trompette sonnera, les musiciens se réjouiront, mais je veux dire que c'est inimaginable ce qu'on va ressentir en nous-mêmes, quand la trompette sonnera. Quand on se dira, mais c'est le moment en fait. Ça va être, comment dire, on peut dire qu'on aura attendu toute notre vie pour ce moment, qui est l'accouchement en fait. Et donc, quand la trompette sonnera, alors 1 Thessaloniciens 4,14 nous dit que nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Un autre passage. Et donc, il y a des personnes qui ne passeront pas par la mort et qui iront directement à la rencontre de Jésus dans les airs. Peut-être nous, peut-être que non. On verra. De toute façon, par l'un ou par l'autre, on va rejoindre l'Esprit retourne à Dieu qu'il a créé. On va rejoindre Dieu. Mais parce que sur l'ensemble de la terre, les chrétiens sont retirés de cette scène de la terre, alors il y aura cette période courte, hein, dont l'Apocalypse dit qu'elle durera 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi, c'est très court. dans une vie. Mais pendant 3 ans et demi, le monde va vivre dans l'absence absolue des chrétiens, et ça sera une manière aussi, à mon sens, pour Dieu, de dire, mais voilà, qu'est-ce que vous cherchez ? Voilà, maintenant vous êtes absolument sans moi, c'est ça que vous voulez ? Et je pense, on pourra en parler après, hein, que tous ceux qui diront non à ce système de pensée, ça sera les martyrs de la grande tribulation. Et de ces gens-là, il est dit qu'ils ressusciteront à l'avènement du Christ, au bout des 3 ans et demi, et ils régneront avec lui. Ces martyrs de la grande tribulation qui sont décrits dans Apocalypse 7 comme étant une grande foule innombrable qu'on peut dénombrer. Je crois qu'il y a dans cette grande tribulation un message de Dieu, encore pour le monde. On va en parler. Ensuite, ce règne de 1000 ans sera le tribunal du Christ. Mais il y aura un jugement dernier parce que ici, tout le monde ne participera pas à ce règne puisqu'il y aura des gens qui n'y seront pas présents parce qu'ils ne seront pas ressuscités. On va y venir. Hein. Ici, donc, les morts sont dans l'au-delà du monde invisible. Les impies souffriront dans l'au-delà de l'Antichrist. Les chrétiens recevront des récompenses et des responsabilités dans l'au-delà du Christ, avec cet apprentissage des nations à vivre par l'exemple d'Israël. Et il y aura une éternité de félicité dans l'au-delà de Dieu pour ses enfants. Voilà un essai de chronologie. Et on va revenir à chaque poste, en fait. Par exemple, si les morts sont au paradis ou au Sheol, moi j'ai entendu pas mal de gens qui essayent de parler avec leurs morts. Et donc, parler avec un mort, c'est du spiritisme. Hein? Et je pense que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, il faut qu'on entende vraiment qu'il y a énormément de spiritisme aujourd'hui. Et que les gens essayent de parler avec leurs morts parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils deviennent. Oui, mais ça serait plus simple s'ils croyaient que Dieu nous parle par la Bible et justement qu'ils comprennent en fait que voilà, les morts, ils ont fait leur choix et que du coup, on n'a pas à parler avec eux, surtout dans la mesure où on comprend que ce sont des esprits trompeurs qui répondent. Pour accéder au paradis et au Sheol, alors comprendre que la mort est une grâce, entendre de la part de Dieu, qui dit à la fin de la Genèse, éloignons l'humain de l'arbre de vie, afin qu'il ne vive pas toujours. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Eh bien, franchement, ça serait la misère si on vivait éternellement dans la condition dans laquelle on est maintenant. Parce que dans la condition dans laquelle on est maintenant, on a mal de partout. On ne comprend pas bien, en fait. À cause de l'absence de Dieu, il y a quantité de choses qui ne vont pas en nous-mêmes, dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce dont nous nous souvenons, etc. Et donc, la mort est une grâce. J'ai l'impression, alors c'est pas une impression, dans les médias, en fait, on fait tout pour ne pas mourir. Il y a même l'acharnement thérapeutique. Alors que nous, les chrétiens, nous affirmons que la mort est une grâce. C'est une peine pour ceux qui restent. Hein, quand il y a un deuil, il y a un deuil. L'être cher nous manque, mais quelque part, on affirme aussi que la mort est une grâce. Alors, j'entends des chrétiens qui se préparent pour vivre la grande tribulation. Bon, il me semble que ce temps très court a du sens dans la mesure où c'est la réponse de Dieu à la demande de ceux qui veulent un monde sans Dieu. Et pour qu'il y ait un monde sans Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les croyants. C'est-à-dire que c'est très logique que l'enlèvement de l'Église se fasse avant la grande tribulation. Et pour que l'Antichrist règne et domine, il faut forcément qu'il n'ait pas des adversaires. Aujourd'hui, je pense que le monde chrétien, l'Église, c'est le sel de la terre. Et que quelque part, le monde chrétien empêcherait que l'Antichrist puisse vraiment survenir, parce qu'il y aurait des résistances, des révoltes, etc. De ce point de vue-là, on comprend en fait que nous ne participerons pas à la grande tribulation. Certains disent, ah oui, mais les chrétiens, vous dites que vous ne participerez pas à la grande tribulation parce que vous en avez peur. Et la question, ce n'est pas qu'on en ait peur ou pas peur, la question, c'est quel est le sens que la grande tribulation donne, que Dieu donne à la grande tribulation. Hein, la grande tribulation se fera, nous dit 2 Thessaloniciens 2, dans la venue de l'impie qui est l'Antéchrist, qui est quelque part celui qui vient avant le Christ et qui est le roi selon le cœur des hommes. Avant que vienne le roi qui est selon le cœur de Dieu. Donc, je ne crains pas l'organisation mondiale. Ah oui, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'organisation mondiale. Il ne faut pas voter pour l'Europe. Bon. Moi, effectivement, je crois que l'Europe est certainement l'Empire romain reconstitué, la quatrième bête qui ressuscite. Mais quelque part, voter pour l'Europe ou ne pas voter pour l'Europe, ça ne change absolument rien. Hein, de toute façon, le plan de Dieu s'accomplit. Ces empires qui écrasent tout, ils ont été annoncés déjà dans les rêves de Nébuchadnezzar, de Daniel, et il y a très longtemps. Hein, Daniel a prophétisé au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps que ces dominations sont annoncées, mais je ne crains pas l'organisation mondiale, parce que je sais que quand elle arrivera à son aboutissement, alors l'aboutissement viendra pour les non-chrétiens, et je pense, pour leur parler. Avec ça, je comprends qu'il n'y a pas de système politique valable tant que le Christ ne règne pas. Quand le Christ règnera, tout sera d'aplomb. Il n'y aura plus de problèmes écologiques, économiques, politiques, patrimonial, social, etc. C'est-à-dire qu'il y aura un règne de fer. Hein, le psaume 2 dit que tu régneras sur les nations avec un sceptre de fer. Il y aura un règne où les nations apprendront, d'un point de vue politique, économique, sociale, écologique, etc., apprendront quelque chose. Bon, mais aujourd'hui, nous espérions que notre président Macron, etc. Mais ça, c'est de l'illusion. Je ne parle pas d'illusion par rapport au président Macron. Je parle d'illusion en pensant que le système politique, quel qu'il soit, nous permettra de vivre bien. Le problème, c'est que tant que le péché est là, ça ne marche pas. Et donc, oui, nous disons, ô Christ, que ton règne vienne. Oui, nous le disons. Et nous le disons parce que ça a du sens, parce que quand le règne du Christ sera là, alors, finalement, la justice reprendra son cours. Alors, dans le règne de 1000 ans, je dis que ce que nous faisons aujourd'hui portera ses fruits pendant le règne. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui et pour lesquelles on aimerait des résultats. Alors, il y a des résultats dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a aussi des situations dans lesquelles il n'y a pas de résultats. Dans nos relations familiales, dans nos relations dans l'Église, dans nos relations dans le travail, dans la construction de projets ici et là, on voit beaucoup d'obstacles, de contrariétés. Oui, mais ces constructions-là, eh bien, elles constitueront la robe de la mariée. Pour l'instant, est-ce qu'on est marié à Jésus, Jean-Étienne ? On est fiancé. On n'est pas encore marié. Donc, quelque part, nous préparons la construction. Alors, en fait, Olivier se cache, donc je ne pense pas à dire Olivier. Hein. Et donc, nous préparons, en fait, la robe de la mariée. Mais quand nous serons mariés avec le Christ, quel sera notre visage ? Celui-ci ou celui-là ? Ah bon ? Oui. Mais, par exemple, 1 Jean 2, 28 nous dit qu'à l'avènement du Christ, certains seront couverts de honte. Voilà. C'est-à-dire que nous préparons quelque chose. En ce moment, nous préparons notre mariage. Donc, en fait, ce que nous faisons maintenant construit notre au-delà. Et ce moment dans lequel il y aura l'avènement du Christ, nous le préparons, en fait. Alors, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passera, mais en tout cas, Jean est catégorique, afin que je ne sois pas couvert de honte au moment de son avènement. Hein? Paul va dire en 1 Corinthiens 3, 14 et 15 que si l'ouvrage de quelqu'un est consumé par le feu, il en éprouvera une perte. Voilà. Donc, les jeunes, hein, Olivier, hein, voilà, on est sensible à ça, en fait. On sait que on peut se dire, ouais, mais j'ai le temps de préparer, hein, je ferai un peu d'évangélisation à ma retraite. Ben, oui, mais le problème, c'est que le Christ peut venir avant, en fait. Hein, la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que je fais, moi, pour faire quelque chose qui participe à la construction de la robe de la mariée. Alors, le jugement dernier ne concerne pas les chrétiens, parce que Romains 8, 1, ça a été rappelé par Yves ce matin, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à l'abri de l'œuvre du Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Hein, donc, il n'y a plus de jugement, en fait. Il n'y a plus de jugement ici. Mais par contre, ici, ce que nous ferons sera utilisé, examiné par le Christ. Il y aura un jugement de nos œuvres dans un sens, mais pas un jugement pour la condamnation. Nos œuvres ressortiront. Et donc, il faut opposer l'enfer et la béatitude éternelle. Mais je pense que même pour l'enfer, Dieu nous surprendra, parce que tout ce qu'il fait est glorieux. J'affirme l'enfer, j'affirme la désespérance de l'enfer. Mais j'affirme aussi que parce que Dieu a créé l'enfer, alors l'enfer a du sens. Dieu fait quelque chose qui est juste, mais qui est juste aussi dans différents aspects qu'il nous faut peut-être examiner. Qu'est-ce qui peut nous en empêcher d'examiner ça? Eh bien d'abord le spiritisme. Ah, mais moi, j'ai pas de problème, je cherche même pas à savoir la différence entre ces jours de mort bienheureux et malheureux, puisque mes disparus, je parle avec eux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment avec tes disparus que tu parles? La communion des saints, c'est une doctrine. La communion des saints, c'est une doctrine qu'on trouve dans le nouveau catéchisme catholique, hein, qui a été dans son édition de 1992. Où cette doctrine-là dit qu'il y a des relations entre les vivants et les morts, et que les vivants intercèdent pour les morts et les morts pour les vivants. Ah, pourtant on lit dans la Bible que quand on est mort, on est mort. Que Lazare, le riche, il n'y a plus rien à faire en fait. Hein? On ne peut pas nous faire quelque chose pour les morts, et les morts, ils ne peuvent pas s'occuper de nous non plus. Donc quelque part, la communion des saints, c'est quelque chose auquel... Personnellement, je ne crois pas que la Bible parle de la communion des saints. Le baptême pour les morts. Alors ça, c'est les mormons. Alors, on entend dans 1 Corinthiens 15, 29, du fait de se faire baptiser à la place des morts. Alors, baptizo en grec veut dire immerger. Par exemple, je suis immergé dans mes soucis. Si vous aviez à traduire ça du grec, vous diriez quoi? Je suis baptisé dans mes soucis? Non. Vous allez dire, je suis immergé dans mes soucis. Hein? Je suis, la maison est immergée dans la neige, en fait. Vous n'allez pas dire, la maison est baptisée dans la neige. Submergée. Hein? Voilà. Mais merci, Chatou, pour cette remarque importante. Et je veux dire, il y a quantité de situations dans lesquelles on pourrait utiliser baptisé à la place d'immergé, et on se tromperait. Parce que le baptême, c'est uniquement le baptême. Et là, il n'est pas question du baptême, là. Là, il est question de ceux qui viennent à la place des morts dans tout ce que Paul vit de difficile. Ils sont immergés à la suite des morts, immergés dans le combat. Alors bien sûr, dans le combat, ce n'est pas dans l'original. Mais à mon sens, il n'est absolument pas question de baptême, là. Bon, ça c'était pour les questions de mormons en rapport avec l'au-delà. La réincarnation, des enquêtes... peut-être un peu légères, mais qui sont quand même, qui existent, et sur la base d'un nombre de personnes suffisant, un millier, disent qu'un quart des Français croient à la réincarnation. À nous aussi de l'entendre et de savoir que leur répondre. La Bible dit, hein, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois. On l'entend et on le retient. Alors, il y a un autre frein, c'est-à-dire de ne donner de l'importance qu'à l'esprit. Hein, par exemple, je pense que le cantique qui dit « Tandis qu'au ciel ma place est prête, ici-bas, J'ai la paix du cœur. Je trouve que ça donne trop de place au ciel. Il faut apprécier le ciel et la terre. Hein, la terre n'est pas un endroit de malédiction. La terre est un endroit de construction difficile. Et donc, je vais, moi, dans mon schéma, comprendre qu'à un moment donné, je serai au ciel, par exemple au paradis, ou par exemple en attendant la grande tribulation. Mais quelque part, la place de l'humain, c'est d'être au ciel et sur la terre. Comme dit le cantique 193, les cieux béniront la terre et la terre aux cieux répondra. C'est-à-dire l'harmonie entre le ciel et la terre. Le spiritualisme, c'est à mon sens de donner trop d'importance à l'esprit, ce que font par exemple les courants mystiques. Hein, qui, quand j'entends comme chose admirable que Marthe Robin a mangé que des hosties pendant 40 ans, je me dis, mais quelle erreur! Je ne suis pas là pour la juger. Hein, et je ne suis pas là pour non plus aller plus loin pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Mais je dis, mais on est fait pour manger. Donne-moi des exemples. Hein? On est fait pour manger des bonnes choses. On est fait pour boire des bonnes choses. On est fait pour vivre dans l'humanité parce que Dieu nous appelle à ça. Hein? Que nous vivions une vie paisible et tranquille en attendant. Donc le spiritualisme, à mon avis, n'est pas une bonne chose et un frein de réflexion sur l'au-delà. La crainte de la mort aussi. Intéressant de voir que Paul dit en 1 Corinthiens 3, 22, tout est à vous, monde, vie, mort. En quoi est-ce que la mort est à nous? C'est intéressant ça. Comme si la mort est ce passage qui nous appartient, un passage qui est absolument dans la main de Dieu. Et je vais peut-être tenir pleinement compte de la souffrance de la perte dans la mort. Mais quand Tante Marthe ne sera plus là, on va se réjouir du fait qu'elle est passée, en fait, qu'elle a abouti. On va pas pleurer, on va dire, voilà, elle a eu tous ses jours et elle est passée, et nous, on continue derrière. Hein, donc la mort est quelque chose qui est à nous, il me semble, de ce point de vue-là. Le matérialisme, donc à l'inverse du spiritualisme, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais non, demain nous ne mourrons pas, parce que la mort n'est qu'un passage. Et donc, quelque part, ne limiter notre vie qu'à ce temps où on mange et où on boit, c'est aussi un frein de réflexion. Alors, on regarde ces choses-là un peu en diagonale, mais c'est toujours important de les considérer. Ici, avec Genèse 3:22, on a vu que Dieu nous épargne. On voit que les morts dorment en Apocalypse 14:13. Ils se reposent de leurs travaux. Hein, c'est intéressant de se dire que nos disparus, les gens qu'on aime et qui sont décédés, ils se reposent. Il y a un vrai repos. Aujourd'hui, ben, ce n'est pas encore le temps du repos. Je dis ça pour les fainéants, mais il n'y en a pas ici. Les morts, bien sûr, oui. Les morts chrétiens, oui. Jean-Philippe souligne que les morts qui dorment, ce sont les chrétiens. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est écrit là, hein, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Hein, ouais. Alors, dans ce séjour des morts, alors l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de combinaison de connaissances, de sagesse, mais il y a des relations. On voit des relations entre, par exemple, Abraham et Lazare. Hein, il y a des relations. Hadès, c'est intéressant, le mot Hadès, ça veut dire littéralement invisible. A, c'est privatif, et Deo, c'est une racine du mot voir en grec. Le Hadès, c'est le lieu qui ne se voit pas. La mort, c'est le dernier ennemi, nous dit 1 Corinthiens 15, 54-56. Il y a un moment donné où ce dernier ennemi, ce passage obligatoire, ce passage qu'on craint, on ne sait pas comment est-ce qu'on va mourir. Donc il y a quand même il y a quelque chose d'anormal dans la mort, même dans le passage. C'est notre dernier ennemi. Et finalement, le cap de cette réflexion sur la mort, c'est quand même de se préparer. Mais quand Paul dit aux Philippiens, en Philippiens 21, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir un gain, alors il me semble que si j'avais à choisir aujourd'hui, si Dieu me disait, qu'est-ce que tu préfères? Alors moi, pour ma famille, pour mes enfants, je dirais, je préfère rester en fait pour faire ce que j'ai à faire et être dans les relations que j'ai à faire. Mais franchement, après, ça sera beaucoup mieux. Je veux dire que rester, c'est beaucoup plus difficile. Et je ne suis pas du tout suicidaire, vous me connaissez un petit peu. Hein, mais je crois qu'il faut quand même affirmer que mourir, c'est un gain. La résurrection. Alors, nous ressemblerons à Jésus ressuscité. Par exemple, 1 Corinthiens 15, 23 dit qu'il y a trois étapes, trois rangs à la résurrection. La première étape, c'est celle du Christ. La deuxième, c'est celle des croyants quand il viendra les enlever. Et la troisième, c'est celle des incrédules quand ils passeront au jugement dernier. Il y a trois étapes à la résurrection. Mais c'est le même événement. L'avantage pour nous qui vivons après la résurrection du Christ, c'est que nous savons comment il a été après la résurrection. Il a mangé, le Christ ? Et du miel. Et un peu de miel. Hein ? Tu dis ? Un rayon de miel. Donc, il faut quand même qu'on entende ce que la Bible dit. Pas qu'on aille plus loin. Mais quand j'entends, par exemple, j'ai entendu que dans la résurrection, on aurait tous des ailes, comme les anges, je me dis, voilà, il faut un peu... c'est quoi ressembler à Jésus ressuscité ? Il me semble que Jésus a tous les caractères de l'humain et aucun caractère du charnel. L'humain, c'est bien, le charnel, c'est pas bien. Et Romains 8, 29 nous dit que nous avons été prédestinés à être conformes à la ressemblance du Fils de Dieu. Il me semble que nous portons l'image de Dieu et nous la porterons complètement dans la ressemblance au corps de ressuscité du Christ. Alors, la résurrection, dans l'étymologie, anastasis, ana c'est à nouveau et stasis c'est la station. C'est-à-dire que ressusciter, c'est se tenir debout à nouveau, en fait. Donc il y a une continuité entre la vie, la mort et la résurrection. On revient à quelque chose qu'on a vécu avant. On se tient à nouveau debout. Il y a un autre verbe. Alors, anastasis, c'est en Philippiens 3, 11. Et en 1 Corinthiens 15, 42, c'est egeiro, qui veut dire se réveiller. Là aussi, il y a une continuité entre ce qui était de la vie et ce qui sera de la vie de ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 42, 44, il y a quatre caractères du corps de ressuscité, hein, qui sont donc le déshonneur, la corruptibilité, la faiblesse et le psychique, ce qui est la traduction littérale du grec psychikon, psychique, qui dans la Darby est traduit par animal, animé, animal, psychique. C'est le même mot, hein, animé et psychique. Seulement, ça nous permet, en disant psychique, de comprendre que dans notre corps actuel, alors oui, nous avons des faiblesses, et donc des déshonneurs, des choses qui ne marchent pas bien parce qu'elles sont corruptibles, mais parce que je ne suis pas absolument spirituel, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas absolument, n'a pas toute la place en moi. Et donc c'est pour ça que je me dirige tranquillement vers la mort. Au jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement pas d'arbre de vie, et puis la désagrégation quelque part de mon corps. Mais mon corps, mon être deviendra fort, fort, glorieux, incorruptible et spirituel. C'est-à-dire que ce qui va changer le corps de ressuscité, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Parce que le corps sera spirituel, parce qu'il sera dirigé par l'esprit, alors il sera fort, glorieux et incorruptible. Mais cet événement est à venir. Hein, dans 2 Timothée 2, 18, certains renversent notre foi en disant que la résurrection a déjà eu lieu. Et donc, on a vu un cap par rapport à la mort, qui est de dire que la mort, de comprendre que la mort est un passage et que nous le voyons comme le passage vers ce qui est mieux. Mais ici, la résurrection, c'est un objectif que nous avons à garder comme cap, ces paroles de Paul en Philippiens 3, 11. de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Un cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre demeure est temporaire. Et donc, je ne m'irrite pas, je ne suis pas douloureusement affligé par ce que je suis aujourd'hui. Non. Je garde mon cap vers ce moment-là où tout sera abouti, y compris dans mon corps. J'ai mis comme sous-titre de la grande tribulation le comble de la déchéance humaine. Alors j'ai conscience que ces expressions que je mets sur les diapos sont courtes, il faudrait peut-être passer une heure sur chaque diapo pour les expliquer, mais on fait un survol ici sur les au-delà. Il me semble que cette grande tribulation, comme je disais tout à l'heure, c'est le moment où l'humain vivra de manière organisée, sans Dieu, dans la manière la plus complète possible. Et dans les paroles de Jésus, il dit « il n'y a jamais eu de tribulation comme celle-là, il n'y en aura jamais ». C'est donc un événement unique. Matthieu 24, versets 21-22. Alors, je dis que cette grande tribulation, ça sera un roi pour les Juifs incrédules et pour l'Empire. Alors je dirais, sans le mettre comme une affirmation, que l'Empire romain reconstitué, à mon avis, aujourd'hui, c'est la puissance de l'Europe et des États-Unis. Mais c'est un avis, c'est pas, la Bible ne dit pas ça. Mais cette quatrième bête avec l'Empire romain, qui est mort, on sait que le déclin de l'Empire romain s'est fait à partir de 450 après Jésus-Christ, et qui revient dans toute sa puissance, aujourd'hui, qui est le gendarme mondial, ce sont les États-Unis, et il y a des accords quelque part entre l'Europe et les États-Unis qui font qu'il y a un empire qui écrase tout, et la monnaie de transaction dans le monde, c'est le dollar. Et donc, voilà, je crois qu'il faut voir qu'il y aura un roi pour le monde, pour l'empire. Un roi pour... il y aura certainement un président du monde à un moment donné. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les principaux sacrificateurs en Jean 19, 14, 15 répondent « Nous n'avons de roi que César ». Ils choisissent, ces juifs incrédules, que le gouvernement soit porté par le monde politique contre Dieu ou sans Dieu. C'est ça ce choix que Dieu respecte, auquel Dieu va donner une réponse en fait. En 2 Thessaloniciens 2, on pourra peut-être le voir après ou pas, l'énergie d'erreur, c'est la manifestation de l'Antichrist. C'est pas que Dieu empêche les hommes de croire. C'est que l'énergie d'erreur, c'est ce roi que Dieu donne à ceux qui l'auront demandé. Et donc, c'est un roi qui est complètement dans l'erreur et qui sera justement cette réponse aux hommes, le comble de la déchéance humaine. Ce roi-là, ça sera un adversaire. Qui se fera passer lui-même pour Dieu, c'est-à-dire que finalement, oui, on peut très bien se débrouiller sans Dieu, chacun ses convictions, mais en tout cas, on a compris que le monde croyant, non seulement il ne sert à rien historiquement, mais il est un adversaire parce que vous avez bien vu, je fais comme si on était dans la grande tribulation, vous avez bien vu tous ces combats de guerre de religion, on n'en veut plus. Il n'y a plus de religion, comme ça il n'y aura plus de guerre. Et donc là, on a un monde qui veut s'organiser sans Dieu, et donc, un temps de domination mondiale, Apocalypse 13, versets 5 et 6, « Il fut donné à la bête le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu. » Donc, la bête, c'est l'Empire. Cette bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 1, c'est l'Empire qui ressuscite, qui est reconstitué. Et donc, pendant ce temps court, 42 mois, alors elle construira sa domination et il lui est donné pouvoir sur tout le monde, Apocalypse 13. Alors je propose un cap par rapport à cet au-delà, c'est-à-dire d'avertir nos proches. Alors je sais que dans notre connaissance en général, c'est un sujet un peu sensible. Beaucoup ont pu dire ou disent qu'après l'enlèvement de l'Église, on ne pourra plus revenir vers Dieu. C'est un avis que je respecte, mais ce n'est pas le mien. Personnellement, je crois que tous ces martyrs de la Grande Tribulation, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et donc, je crois qu'il faut avertir nos proches. Moi, j'ai des cousins germains qui ne sont pas du tout croyants. hein, avertir nos proches et dire, mais si un jour vous ne nous voyez plus, s'il n'y a plus de chrétiens, sachez que là aussi c'est un langage de Dieu qui vous avertit. Et résister à l'athéisme mondial. Le tribunal de Christ. Dieu utilisera nos parcours. Alors, ça va durer 1000 ans, si j'ai bien compris. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le Christ est écrit ici, hein, que le Christ jugera les vivants et les morts au moment de son apparition et de son règne. 2 Timothée 4.1. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Par ce verset. Le Christ, Jésus, le Christ doit juger les vivants et les morts. Alors, qui sont ces vivants et ces morts? Alors là, c'est un tout petit peu compliqué. Il y a 2 possibilités. Soit c'est les vivants et les morts corporels. C'est-à-dire que le Christ jugera les vivants, ceux qui sont encore en vie quand il reviendra, mais les morts qui seront revenus à la vie, qui seront ressuscités, les morts en fait. Il jugera les morts. Donc soit les vivants et les morts corporels, soit les vivants et les morts spirituels, c'est-à-dire il jugera l'Église et les nations qui sont incrédules. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est les vivants et les morts corporels, alors nous voyons avec l'Apocalypse que le jugement des incrédules se fait après le règne de 1000 ans. Parce que les incrédules vont ressusciter pour être jugés. Là, je crois qu'il faut que j'aille très lentement. C'est-à-dire que parce que les incrédules ressuscitent après le règne de 1000 ans, alors je crois qu'il ne peut pas s'agir ici des morts corporelles. Le Christ jugera les vivants, c'est-à-dire l'Église, et les morts, c'est-à-dire ceux sur lesquels il régnera. Il viendra avec l'Église pour régner sur ceux qui seront sur la terre. Et là, il y aura un règne de justice. En quoi est-ce qu'il jugera l'Église? On l'a vu, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont sauvés par l'œuvre du Christ. Mais par contre, nos œuvres seront utilisées par le Christ. C'est la robe de la mariée. Et donc, il y a une justice qui se fera. Et on va voir ici comment est-ce qu'elle va se faire. D'abord, elle va se faire pour rendre compte. Je lis Romains 14, 10. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que c'est effrayant de rendre compte? Un peu. Mais est-ce que c'est bien de rendre compte? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans la lumière. Parce qu'on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut se mettre en colère les uns contre les autres. Il faut dire aux gens ce qui ne va pas. On a besoin de l'entendre. On a besoin d'entendre la colère de Dieu sur nous. On a besoin d'entendre la discipline du Saint-Esprit sur nous. Mais on a besoin d'entendre aussi ce que les sœurs et les frères ont à dire aux sœurs et aux frères. Mais de la même manière, on entendra ce que le Christ dira de nos œuvres. Et ça nous libérera. Rendre compte. Avoir conscience, en fait, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Après, il est dit en 2 Corinthiens 5:10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alors, je dirais qu'il y a la version bisounours de ce verset. Hein, je pense qu'ici, tout le monde connaît les bisounours, ou à peu près. Hein, ce monde féerique, où tout le monde est gentil, tout le monde se dit de bonnes choses. Mais cette version-là, elle va pas voir l'expression « soit en mal ». Mais ici, il est dit qu'il sera rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait, dans son corps, soit en bien, soit en mal. On se dit, mais donc, les choses que j'ai mal faites produiront quelque chose, m'apporteront quelque chose. Alors, je voudrais donner 1 ou 2 exemples. Peut-être pour proposer une compréhension de ce passage. Être paresseux, Olivier, c'est pas bien. Non, c'est pas bien d'être paresseux. Et donc, si quelqu'un était... Il y a des animaux qui s'appellent paresseux. Mais si quelqu'un est paresseux toute sa vie, Qu'est-ce que le Christ lui confiera? C'est pas sûr. Parce que justement, il lui sera donné quelque chose, en fait. Il sera rendu à quelqu'un qui aurait été paresseux, mais à mon avis, il lui sera donné un sceptre pour l'administration des nations. Il fera paître les nations. Il conduira les nations. Mais si je dis, par exemple, que le paresseux enseignera les nations à ne pas être paresseux, est-ce que ça vous paraît cohérent? C'est-à-dire que, puisque quelqu'un aura eu l'expérience du mal de manière abondante dans sa vie, Dieu sera glorieux parce qu'il utilisera le mal qui aura été fait pour quelque chose de glorieux, pour quelque chose de bien. Mais si moi... Tu dis?
C'est super.
Mais c'est fantastique. Moi, depuis que j'ai compris ça, ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, en fait, de ce qu'ils ont fait. Mais je dis, mais ce que nous avons fait de mal, ça nous a fait du mal et ça fait du mal aux autres. Mais Dieu l'utilisera de manière glorieuse, à mon sens, dans ce règne de mille ans.
On le voit déjà dans le monde, ça, dans la vie. Les gens qui se sont drogués toute leur vie, qui ont compris la gravité, ils aident les drogués à sortir de la drogue.
Je suis d'accord. On en parlera après, si tu veux, parce que c'est enregistré. Et donc, je crois qu'il y a des vrais ponts entre ce que nous vivrons après et ce que nous vivons maintenant. Et savoir ce que nous vivrons après, ça nous aide maintenant. En fait, ne plus porter sur nos épaules, en culpabilité, en charge, ce que nous avons vécu, et comprendre que Dieu en fera quelque chose de fantastique. Mais ce n'est pas une raison pour mal faire. Hein, parce que quand on fait mal, on se fait mal. Donc, ne nous faisons pas mal, mais quelque part, quand on s'est fait mal, alors on a une expérience qui servira au Christ pendant son règne. Et donc, le cap de notre vie, eh bien, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, on sait que, quelque part, tout ce que je fais en mal ou en bien servira dans l'œuvre de Dieu. Donc, on a intérêt à mettre l'œuvre de Dieu au centre de ce que nous faisons aujourd'hui. Le jugement dernier, ça sera donc pour les incrédules qui auront refusé la grâce. Dans 1 Corinthiens 15, 24, il est question de la résurrection qui concerne la fin. Il y a, dans 1 Corinthiens 15, 23, 24, il y a trois rangs. Il y a le Christ, ceux qui sont du Christ à son avènement, et ensuite la fin. Et la fin, c'est cette résurrection des incrédules dont il est question en Apocalypse 20. En Apocalypse 20, il y a la résurrection des enfants de Dieu. Alors, sans trop compliquer, mais je le dis parce que c'est important, les enfants de Dieu vont ressusciter à l'enlèvement de l'Église et ensuite à l'avènement du Christ, parce qu'il y aura les martyrs de la grande tribulation qui les rejoindront. C'est ça, nous dit Apocalypse 20, la première résurrection. Mais la deuxième résurrection, c'est celle des incrédules. Et il est dit « Bienheureux et saints ceux qui participent à la première résurrection, parce que sur eux, la mort n'a pas de pouvoir. » Mais les incrédules sont dans la mort. Et donc, c'est morts qui vont ressusciter, ils vont comparaître devant le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 12. La justice sera exercée. Dieu dira de la même manière à ces gens-là qui refusent la grâce. Imaginez, vous êtes en voiture et vous téléphonez. Et puis, il y a un motard qui vous dépasse de la gendarmerie et qui vous fait arrêter. Vous imaginez que c'est pour vous dire bonjour? Pas seulement. Et donc, il vous dit, ben voilà, ça vous fait 135 euros et 4 points en moins sur le permis. Et si tout à coup, quelqu'un vous dit, je paye les 135 euros, est-ce que vous allez les refuser? Mais il y a des gens qui refusent la grâce. Il y a des gens qui refusent la grâce de Dieu. C'est ça. Et donc, ces gens-là, ils vont comparaître. Comment ça va se passer? Mais je pense que ces gens-là qui refusent la grâce de Dieu, ils diront à Dieu, écoute, maintenant on sait que, je ne sais pas, peut-être ils diront, on sait que tu es là, mais on ne veut pas avoir affaire à toi. On t'a refusé, ils sont endurcis. Et ils iront avec leurs œuvres. Ce sont des gens qui comparaîtront pour que tout ce qu'ils ont fait soit évident, qu'ils sachent. Mais ils partiront avec leurs œuvres. Ils n'auront pas la vie. Apocalypse 20, verset 15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas la vie, quelqu'un à qui Dieu, qui voulait donner la vie, mais ils ne l'ont pas reçu cette vie-là. Donc ce n'est pas une question de mérite. Claudine, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. C'est-à-dire que ces incrédules qui vont comparaître devant le jugement dernier, ils n'auront pas reçu la grâce. Tu l'as reçu la grâce? C'est ça, en fait. Hein? Je reçois la grâce et après je sais que si je passe par la mort, que je vais au paradis. Que si je passe par l'enlèvement de l'Église, alors je serai enlevé avec les chrétiens. Et donc ces gens-là sont jugés selon leurs œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Ça veut dire que leurs œuvres sont manifestes. Qu'est-ce que Dieu fera avec ça? Personnellement, je ne pense pas que Dieu punisse. Dieu ne va pas les punir d'avoir mal fait. C'est eux-mêmes qui se punissent avec leurs propres œuvres. Imaginez que quelqu'un ait passé sa vie à voler les gens, à les torturer, etc. et qu'il n'y ait pas de solution à ses souvenirs. C'est lui-même qui porte la peine de tout ce qu'il a fait. Il n'est pas sous la grâce. Et donc, le cap, peut-être pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point c'est important d'être vivant à Dieu, de comprendre que je ne vais pas le rencontrer au jugement dernier, mais de savoir parler à mon voisin, qui peut-être dit le jugement dernier, bof, c'est des fables tout ça. Et on pourrait très bien dire au voisin, eh bien, écoutez, j'ai un peu réfléchi à ça, voilà à mon avis ce qui se passera au jugement dernier. Et vous pourriez dire, je pense que quelqu'un, je parle surtout pas de vous, hein, mais quelqu'un qui aurait fait beaucoup de mal dans sa vie, eh bien, il n'y a pas de solution en fait à ce mal qu'il a fait. Il le porte sur sa conscience, il est chargé par ça. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir recours à la grâce de Dieu. Et le jugement dernier, c'est le constat de ces choses. État éternel, vivre en tant qu'abouti. Alors c'est intéressant, là aussi, quelque chose d'un peu sensible. Vous allez peut-être dire que je suis témoin de Jéhovah. Je lis dans 2 Pierre 3 que les cieux et la terre seront purifiés par le feu. Purifiés par le feu. Il est dit en 2 Pierre 3, 10 que la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées. Moi, je comprends que quand la terre est brûlée, elle devient du magma. La terre qui est brûlée, en fait, elle ne disparaît pas. C'est-à-dire que 2 Pierre 3 nous dit que comme la terre a été purifiée par l'eau dans le déluge, elle sera purifiée par le feu. Si on fait une lecture en dehors de tous nos présupposés de 2 Pierre 3, il me semble qu'on voit que Dieu a pour but de purifier la terre et d'enlever par le feu tout ce qui aura été construit. Notre nouveau local, s'il est construit, quand il y a la pierre fond, en fait, avec le magma, il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être, si c'est une résurgence volcanique sur toutes les terres habitées, tout redeviendra quelque part solide par le magma. Il y a une véritable purification et les terres magmatiques sont extrêmement fertiles. Et donc, dans l'état éternel, il me semble qu'il y a une purification qui sera faite. Le mot cieux a trois sens. Il a le sens de l'atmosphère, le sens du cosmos et le sens de l'habitation de Dieu. L'atmosphère, c'est en Genèse 1:8, où c'est l'étendue qui est entre les eaux du haut et les eaux du bas. Et donc, quand en Genèse 1, il est dit que Dieu créa les cieux et la terre, les cieux, ce n'est pas le cosmos, puisque le verset 8 nous dit que c'est le nom de cette étendue qui est entre les eaux du haut, les nuages, et les eaux du bas, l'océan. Quand, en Genèse 15, Dieu dit à Abraham, « Regarde les cieux et compte les étoiles si tu le peux », alors là, on comprend que c'est le cosmos. Mais quand il est question des cieux comme de demeure de Dieu, on comprend que c'est le monde invisible. Eh bien, ici, à mon sens, quand il est dit « Les cieux passeront avec un bruit sifflant », c'est la purification, à mon sens, hein, de l'atmosphère. Alors, ça ne veut pas dire que le cosmos ne doit pas être purifié depuis qu'on y envoie des satellites. Mais c'est ça, à mon avis, le sens de 2 Pierre 3, de purifier quelque chose qui aura été pollué par l'homme. Les œuvres, la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Quand la terre brûle, elle devient du magma. Alors, est-ce qu'on sera en famille dans l'éternité? Alors je propose que ici en Luc 1, 33, il est dit que Jésus régnera sur la maison de Jacob à toujours et qu'il n'y aura pas de fin à son royaume. La maison de Jacob, c'est une famille. Pour que Jésus règne sur la maison de Jacob à toujours, alors il y a forcément dans le plan de Dieu une... Comment est-ce qu'on dit une rémanence, c'est le mot ? La famille reste, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est important pour Dieu. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'arrangera, parce que, en fait, David a eu combien de femmes ? Salomon a eu combien de femmes ? Qu'est-ce que c'est que la famille, dans l'absolu ? Mais par contre, je pense que quand il est dit en Éphésiens 3, 15 que la famille porte la marque de Dieu, il y a quelque chose de très important là-dedans. Alors, quelles seront nos activités dans l'état éternel ? 2 Pierre 3,13 nous dit que nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquels la justice habite. Alors, il me semble qu'on peut dire sans exagérer que dans les détails qui nous sont donnés dans ce verset, la seule chose qui est dite, c'est que ce sera juste. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est que ce sera juste. L'insistance est mise sur la justice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses nouvelles. Mais en tout cas, nous sommes interpellés par Pierre, ce qui est nouveau, ça sera la justice. Ce qui veut dire peut-être qu'il y aura peut-être des choses nouvelles, mais peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à expérimenter quelque chose aujourd'hui et qui fait que nous vivrons quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce qui est nouveau, c'est que ce sera juste. C'est pour ça que je mets ici que l'état éternel, sans que ce soit écrit explicitement dans la Bible, contiendra l'expérience de la première vie. C'est-à-dire que peut-être que un des sens de ce que nous vivons maintenant, c'est que ça servira non seulement pendant ce règne de 1000 ans, mais aussi pendant l'état éternel. Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Donc, un cap, eh bien, c'est quand même de se dire la figure de ce monde passe. Hein? C'est-à-dire que ce que nous faisons maintenant, c'est provisoire. C'est provisoire. Et donc, Paul dit en 1 Corinthiens 7, « ayant comme ne possédant pas hein? ». Je peux avoir les plus belles choses, mais de toute façon, je sais que c'est provisoire. Et à moi de construire avec quelque chose qui est permanent. Et ce qui est permanent, c'est l'œuvre de Dieu. On va finir avec l'enfer. Et peut-être pour savoir répondre simplement à quelqu'un qui nous dirait « Mais pour vous, chrétiens, qu'est-ce que c'est que l'enfer ?» Alors, voilà, je propose de dire que, avec Apocalypse 20, verset 6, « Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection, sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. » La seconde mort, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Donc, ceux qui sont des enfants de Dieu et qui ressusciteront pour régner avec lui, ceux qui sont des enfants de Dieu ne vivront jamais la seconde mort. Ceux qui sont en enfer seront privés de Dieu et quelque part, la seconde mort, c'est-à-dire cette absence de relation avec Dieu, aura un pouvoir sur eux. Quel peut être ce pouvoir ? Qu'est-ce qui peut se passer, en fait ? Peut-être que quand... alors là, on est un peu obligé de supposer, mais peut-être que quand ces gens-là vivront vraiment la conscience de Dieu et la non-relation avec Dieu, alors il y aura un choc, il y aura un retentissement, il y aura un regret. Il y aura le pouvoir de la seconde mort, c'est-à-dire qu'ils auront le pouvoir sur eux de ce qu'ils n'auront pas, en fait. Hein, le pouvoir de la non-relation, quelque chose qui les percute. On retrouve cette expression en Apocalypse 2,11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. La seconde mort produira des souffrances. C'est-à-dire que si je suis fait, moi, pour être en relation avec Dieu, et avec les autres d'ailleurs, alors si je ne le suis pas, j'en aurai des souffrances. En Apocalypse 21,8, on lit que la part de ces gens-là sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors, une explication sur le feu. Le feu, dans la Bible, c'est un signe de jugement. Parler en langue, les langues de feu, c'est un signe de jugement sur le peuple d'Israël pour lui dire qu'il n'est plus le serviteur de Dieu. C'est ça le sens du baptême d'esprit et de feu. Hein, il y aura un baptême de feu, il y aura un jugement. On n'a pas, nous, à désirer le baptême de feu. Et donc, les temps brûlants de feu et de soufre, le feu a un pourcigne de jugement. C'est-à-dire que ces gens-là qui seront passés devant le jugement dernier, ils seront avec tous leurs problèmes et ils ne pourront pas les juger. Le feu sera sur eux. Ils seront dans les temps brûlants de feu, c'est-à-dire qu'ils seront continuellement confrontés aux problèmes qu'ils n'auront pas réglés. Les temps de soufre. Alors, c'est intéressant de voir que le mot grec pour soufre, c'est théion. Le mot grec pour Dieu, c'est théos. Et théion est traduit en acte 17 par divinité. Et je suis un peu étonné qu'il n'y ait aucune traduction qui est traduit du grec, théion, par divinité. C'est-à-dire l'étang brûlant de feu et de divinité, qui est la seconde mort. Non seulement ils ont la seconde mort, mais ils sont vivants aux divinités, c'est-à-dire aux démons. Et d'ailleurs, en Matthieu 25, 41, le feu inextinguible, l'étang de feu, il est préparé pour le diable et ses anges. Et donc, je vois ici qu'il y a certainement dans ce qui est appelé l'enfer du mot, de manière usuelle, mais l'enfer est un mot qui n'existe pas dans la Bible, l'enfer, c'est non seulement l'absence de Dieu et les regrets et la solitude, mais c'est aussi la présence des divinités, à mon avis, dans ce mot « souffre ». Alors, je vais m'arrêter là et on va peut-être un petit peu échanger, mais je dis, avec cette notion d'enfer, Dieu est souverain. Et Dieu sera glorifié par l'enfer. Vous me direz, comment est-ce que tu peux le prouver? D'abord, que Dieu soit souverain, ça ne se prouve pas. Que Dieu soit glorifié, je crois que ça ne se prouve pas non plus. Dieu sera glorifié. Dieu est tout-puissant, Dieu n'est pas dépassé par rien. Et donc, regardons un peu l'enfer comme quelque chose qui pourrait être utile à l'œuvre générale. Je sais que c'est choquant ce que je dis, mais puisque Dieu permet en fait que ces créatures aillent en enfer. Alors réfléchissons et ayons pour nous-mêmes des réponses qui pourraient être des réponses qu'on donnerait à nos voisins. Un jour, j'ai eu un hindouiste, un occidental hindouiste qui est venu à la maison, et je lui dis, ça ne vous fait pas peur d'aller en enfer? Il me dit, non, moi, j'ai envie d'aller en enfer. Alors je lui dis, pourquoi? Mais il me dit, parce que dans l'hindouisme, comme on croit à la réincarnation, l'enfer est un temps provisoire et il vaut mieux aller en enfer parce qu'on purifie notre karma pour aboutir à l'union en Dieu, c'est-à-dire de la perte d'identité après. Alors, je passe sur l'hindouisme qui est quelque chose d'un peu compliqué, mais comme le bouddhisme d'ailleurs. Hein, mais ces gens-là, il ne faut pas leur faire peur avec l'enfer. Hein. Par contre, avoir une vision assez claire de ce que peut être l'enfer, et ici, je propose de retenir l'absence de Dieu avec ses conséquences, mais la présence des divinités. Alors, le cap, eh bien, c'est qu'en enfer, il y a peut-être le feu des gens sur eux, mais il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de possibilité de réparer ce que nous avons fait. Hein, l'enfer, ceux qui passent par le jugement dernier, eh bien, ils vont avec leurs œuvres, avec l'absence de Dieu, avec les regrets, la solitude et la présence de divinité. Je pense quand même que nous avons à bien réfléchir à ces choses-là pour pouvoir répondre simplement aux gens qui pourront nous poser les questions.